Dans trois jours, les Français seront sur le point de découvrir leur nouvelle Assemblée nationale avec une question majeure après le premier tour. Le Rassemblement national obtiendra-t-il une majorité suffisante pour gouverner le pays? L'incertitude est totale et les signaux parfois d'ailleurs totalement contradictoires. Trois sondages ont été publiés depuis l'annonce des candidats mardi et les projections en siège pour le moment sont absolument unanimes. Pas de majorité absolue en vue pour Jordan Bardella et Marine Le Pen. On écoute Madame Le Pen.
Moi, je pense qu'il y a encore la capacité d'avoir une majorité absolue, pour peu que les électeurs, dans un ultime effort, viennent pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Et que ceux qui ne se sont pas déplacés, car il y en a, quelques millions d'électeurs du second tour de la présidentielle, par exemple, qui se sont abstenus et à qui je viens dire, venez. Ce qui va déterminer le vote de dimanche, c'est le choix qui est celui des Français aujourd'hui. C'est-à-dire un choix du bourbier, c'est le bourbier en réalité, hein, ou le choix d'une majorité absolue pour le Rassemblement national qui lui permette de mettre en œuvre une politique.
Avec nous ce soir, Philippe Ballard, député Rassemblement national réélu de l'Oise. Martin Garagnon, porte-parole Renaissance de ces élections législatives. Nicolas Maillard-Rossignol qui nous rejoint, maire socialiste de Rouen, premier secrétaire délégué du Parti socialiste. Prenez place, je vous en prie, Nicolas Maillard-Rossignol. Geoffroy Didier, secrétaire délégué des Républicains, par ailleurs qualifié au second tour dans les Hauts-de-Seine. David Jaiz, haut fonctionnaire, enseignant à Sciences Po. Votre livre « La Révolution obligée » est paru aux éditions Alary. Et Anna Cabana, éditorialiste politique de BFM TV. Anna, je commence avec vous. Deux sondages ont été publiés aujourd'hui, l'un par l'IFOP, l'autre par Odoxa. Et tous les deux, comme le Harris d'hier, sont unanimes. Le RN ne semble plus en mesure d'obtenir une majorité absolue dimanche soir. Est-ce que c'est plié ?
Alors, je peux vous dire, il y a quelques voix autour du président de la République qui considèrent que ces sondages sont très dangereux. Ces sondages sont très dangereux parce que, très dangereux dans la perspective d'une remobilisation de ceux qui voudraient faire barrage au barrage contre le Rassemblement national. C'est-à-dire que de ceux qui seraient sensibles à ce qu'on entend déjà dans la bouche et de Marine Le Pen et de Jordan Bardella et de Sarah Knafou il y a quelques instants sur ce plateau et qui viennent dire, les Français vont se faire voler l'élection. Les Français sont méprisés, c'est les mots qui sont employés par Marine Le Pen, sont traités comme des choses, toujours Marine Le Pen, comme des parias, Marine Le Pen toujours, comme des enfants. Donc toute cette sémantique-là, si vous voulez, toute cette stratégie politique qui consiste à dire que ces 11 millions de voix qui se sont portées au premier tour sur le Rassemblement national vont être confisquées sur l'autel d'accords d'appareil parisien, de désistement parisien, c'est ça qu'on entend, eh bien ça peut être dangereux parce qu'en effet, ça peut si vous voulez, c'est dangereux dans l'idée des stratèges qui se trouvent autour d'Emmanuel Macron, parce que ça pourrait remobiliser ceux qui sont hostiles à ce barrage et qui veulent, à ce barrage contre le Rassemblement national, et qui veulent que les Français se fassent entendre. Clairement, les Français ont quand même fait du Rassemblement national le premier parti de France. Donc, il y a une façon de se positionner par rapport à ce fait politique qui doit ne pas donner le sentiment de mépriser. Voilà, il y a eu deux faits politiques contradictoires. Le premier fait politique, dimanche soir, le RN, premier parti de France. Le deuxième fait politique, lundi.
Pourquoi pas une majorité absolue à ce moment-là ?
En effet, deuxième fait politique inouï, ce cartel, ce cartel électoral qui réussit à s'entendre contre toute attente, avec des alliances qui ont paru inouïes, mais néanmoins...
Vous allez dire contre nature.
J'ai failli dire contre nature, en effet, parce que certaines de ces alliances le sont, mais en même temps, je constate le fait politique, et le fait politique, c'est cette coalition qui ne dit pas son nom. Et quand Gabriel Attal emploie le mot coalition, tout de suite après, il dit non, mais j'ai pas dit coalition. Oui. Il dit majorité plurielle. Non, j'ai pas dit majorité plurielle, assemblée plurielle. Donc on voit bien que tout le monde marche sur des œufs et que la question, c'est qu'il y a cet événement politique de cette alliance inouïe qui a surgi de ce premier tour, mais qui peut avoir comme effet de déclencher, au fond, la colère de ceux qui se sentiraient méprisés.
David Jaiz, dernière journée de campagne demain. Les jeux sont faits ou on se dirige vers des élections très serrées ?
On n'en sait rien du tout, mais moi je suis toujours sidéré quand j'entends par avance parler de colère ou de ressentiment vis-à-vis du résultat des élections. On a un mode de scrutin. Il y a 31% des électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national au premier tour, dont acte. Mais il y en a 69% qui n'ont pas voté pour le Rassemblement national. Et ensuite, on a un mode de scrutin que je suis le premier à critiquer, qui fait que au deuxième tour, on élimine. Au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on élimine. Donc, on peut faire des désistements. Si le Rassemblement national est jugé comme un parti qu'il faut combattre par plein d'autres partis de du spectre politique, c'est comme ça. Je veux dire, il n'y a rien d'antidémocratique là-dedans. Personnellement, je serais favorable à ce qu'on passe à un scrutin proportionnel pour vraiment avoir la juste représentation des sensibilités politiques dans le pays. Je note d'ailleurs que Marine Le Pen, elle était très favorable à la proportionnelle en 2017. En 2022, elle a proposé une variante qui était beaucoup plus bonapartiste et maintenant, plus du tout.
J'apprécie votre philippique, mais ma question initialement, c'était est-ce que les jeux sont faits, selon vous ?
Alors, les jeux ne sont pas faits.
Voilà.
Et il faut laisser les électeurs...
En dépit des sondages réguliers qui nous donnent la même tendance depuis le début de la semaine.
Évidemment, surtout qu'en réalité, les projections en siège, ce n'est pas un travail de sondeur. Parce que vous ne savez pas...
C'est un travail de quoi, alors ?
C'est pas une science exacte. C'est-à-dire que...
Ah oui,
non, mais savoir quels sont... Appeler des gens pour savoir pour qui ils vont voter, etc. Au niveau national, on peut avoir une estimation. Mais dans chaque circonscription, la question, c'est de savoir quels vont être les reports de voix. Est-ce que la gauche va se mobiliser pour le candidat ensemble ? Est-ce que les électeurs d'ensemble vont se mobiliser pour le candidat de gauche ? Si c'est un candidat LFI, ça ne sera pas forcément la même mobilisation que pour un candidat socialiste ou un candidat écologiste. Tout ça, ce n'est pas une science exacte. Donc, en réalité, on n'en sait rien. Laissons les électeurs s'exprimer dimanche et on verra ensuite ce qu'on fait.
Personne ne va les empêcher de voter, croyez-moi. Et d'ailleurs, plus ils seront nombreux, plus ça sera intéressant. Philippe Ballard, ces sondages vous inquiètent-ils ? La semaine dernière, on vous envisageait dominant. Je veux dire, avec une majorité absolue, ce n'est plus le cas. Et comment l'expliquez-vous ?
Il y a les sondages, et puis il y a quelque chose qui s'appelle l'isoloir dans les bureaux de vote. Donc on va effectivement laisser dimanche prochain les Français s'exprimer. Vous passiez un extrait de Marine Le Pen ce matin qui était sur votre antenne. Mais pourquoi elle dit ça ? Parce qu'en fait, il y a une dynamique et on sent sur le terrain qu'elle est toujours là. On va juste rappeler un chiffre. En 2022, le Rassemblement National fait 18% des voix. Dimanche dernier, on a fait 33% des suffrages. Et puis, à la présidentielle, Marine Le Pen a fait 13 millions de voix. Là, on fait 11 800 000 voix. Donc, c'est mathématique. Il y a une réserve de voix quelque part. Et les Français sont des gens adultes et ils comprennent très bien les enjeux politiques.
A contrario, ça veut dire que la dynamique du Front républicain n'existe pas, selon vous ?
Bah, écoutez, encore une fois, on verra dimanche. Mais la dynamique, elle est forcée de constater quand on passe ce tableau. Elle est de notre côté, incontestablement. Et puis après, enfin, les Français, quand je dis ils sont adultes, responsables et intelligents, parce que le seul groupe qui peut être majoritaire, c'est le nôtre.
Odoxa,
après,
maintenant.
Vous avez, alors, oui, il y a Odoxa.
210 à 250.
Boum. Oui, et puis quand vous regardez quand même les... quand vous allez dans le... Oui, mais quand vous allez dans le détail...
C'est énorme, c'est pas
si simple. Mais on est le seul groupe à pouvoir être majoritaire parce qu'on parlait, il y a quelques instants, Anna Cabana parlait effectivement de ces désistements et puis de cette coalition. Alors, elle rappelait que M. Attal... Oh non, pas une coalition. Entre parenthèses, c'est ce qu'ils ont essayé de faire pendant 2 ans à l'Assemblée. Ça n'a pas marché. C'est pas vendeur, c'est pas des bons commerciaux, entre parenthèses. Et alors, vous allez liser juste le programme de la NUPES version 2, nouveau front populaire, et puis lisez le programme des candidats macronistes. Qu'est-ce qu'il y a de commun ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils vont pouvoir, si on se projette.
Ce qu'ils ont
en
commun, vous le savez très bien, c'est de vouloir vous empêcher d'arriver au pouvoir.
Et arriver à l'Assemblée, qu'est-ce qu'on fait ?
Là-dessus, ils ont été clairs et depuis toujours.
Et arriver à l'Assemblée, comment on gouverne ? Non, mais attendez, comment on gouverne le pays ? C'est juste la question, point d'interrogation. Comment gouverne-t-on le pays avec des programmes qui n'ont strictement rien à voir ? Qu'est-ce qu'il y a de commun sur l'agriculture entre un écologiste, un EELV, comme on dit, et puis un LR ? Il n'y a rien.
Je ne peux pas répondre à ça. Je peux vous dire que leur projet...
Voilà, il y a des
projets. Je peux vous dire que leur projet, c'est tout simplement de vous empêcher d'être majoritaire à l'Assemblée nationale et de gouverner.
Les Français ne sont pas dupes et ils vont très bien comprendre que ça ne suffit pas pour gouverner le pays.
Nicolas Mayer-Rossignol, le Front républicain qui s'est monté dans la douleur, est-il en train de fonctionner selon vous ? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe ?
Oui, indéniablement, il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, je n'aime pas du tout cette discussion sur le fait que les jeux seraient faits. Attendez, il n'y a rien qui est fait du tout.
En tout cas, il n'y a rien de plus dangereux pour le Front républicain.
Mais pour tout le monde. D'abord, et je pense qu'on sera tous d'accord, on est tous, j'espère, démocrates. Les Français, dans l'isoloir, effectivement, ils votent ce qu'ils veulent. Bon, ça n'empêche pas les responsables politiques de dire ce qu'ils pensent. Ça ne s'appelle pas une consigne, on ne vote pas au canon. Mais enfin, dans responsable politique, il y a prendre ses responsabilités. Moi, je trouve que celles et ceux, il y en a... qui sont dans le ni-ni, sont ni dans le courage, ni dans la responsabilité. C'est irresponsable. Ensuite, les Français sont libres, évidemment. Après, rien n'est joué. Rien n'est joué. Et bien sûr que le RN peut avoir la majorité, soit tout seul, soit, et je pense qu'on devrait aussi se préoccuper de cette coalition-là, éventuellement avec des LR. éventuellement avec des LR. D'abord, il y en a déjà qui ont franchi la chose. Hein. Vous connaissez la formule sur le chemin de la trahison.
Donc vous n'excluez pas
une extension
de l'alliance autour du RN.
Sur le chemin de la trahison, il n'y a que le fleuve de la honte à traverser. Mais d'autres pourraient traverser le fleuve de la honte. Et j'aimerais de la clarté sur ce sujet.
Vous êtes sûr que vous
regardez l'image.
Vous ne craignez pas de les renforcer en employant des formules comme celles
non,
que vous venez d'employer.
Non, je pense qu'il faut qualifier les choses.
Non, mais, j'entends bien, on peut toujours les qualifier, mais ça fait 30 ans qu'on les qualifie et 30 ans qu'ils ne cessent de progresser, non pas dans les sondages, mais tout simplement
dans
les résultats électoraux.
Non, je ne suis pas d'accord avec vous.
Je vous parle
des Républicains, des LR. Moi, je me souviens de Jacques Chirac. Qui était très clair sur le rapport avec l'extrême droite.
Ça, c'est sûr.
Bon. Donc, je dis simplement que quand on regarde les chiffres, je vous parle des LR, quand on regarde les chiffres qui sont sur le diagramme que vous venez de montrer, c'est-à-dire les prévisions, bon, on verra bien. Encore une fois, les Français sont libres de voter. On voit que soit, effectivement, ça a été dit, et par honnêteté intellectuelle, je ne peux qu'être d'accord avec ce qu'a dit M. Ballard, il n'y a qu'un groupe qui pourrait emporter la majorité absolue, c'est effectivement le Rassemblement national. C'est déjà terrifiant. Mais même s'il ne l'avait pas, il ne l'a pas dit, mais moi je le dis. Mais même s'il ne l'avait pas, il pourrait l'avoir avec qui ? Avec les LR. Et donc, il faut être clair. La question que je pose, elle est simple. Est-ce que les LR sont prêts à gouverner avec
Dans ce cas-là, on se tourne vers Geoffroy Didier et on lui pose la question.
Alors, déjà, moi je n'aime pas les tambouilles. Je déteste ça. Et ce à quoi on assiste dimanche, ce sont des alliances contre nature. Des petites tambouilles d'appareil où on voit quand même le parti d'Emmanuel Macron soutenir dans certaines circonscriptions, se désister tactiquement pour faire élire des socialistes, au secours, François Hollande revient, et puis même des députés de la France insoumise. Je pense par exemple à David Guiraud, au propos notoirement antisémite après les attentats du 7 octobre. Ce n'est pas un front républicain, M. Calvi. Il n'y a plus d'arc républicain. Parce que ceux qui prétendaient incarner l'arc républicain jusqu'à dimanche dernier sont devenus les acteurs du pacte de la honte. Donc moi, je veux bien recevoir des leçons de morale de mon voisin. Je vais vous répondre.
Je suis un homme
de droite, indépendant, et j'ai toujours considéré qu'il n'était pas nécessaire d'être extrémiste pour être offensif. Et donc, si je n'ai pas rejoint Éric Ciotti, qui s'est soumis au Rassemblement national, ce n'est pas par hasard. Donc je n'ai pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. En revanche, j'aimerais effectivement pointer et dire à tous ceux qui nous regardent que si on est de droite et qu'on s'est tourné à un moment légitimement, je peux le comprendre, vers Emmanuel Macron, on doit se sentir floué et trahi depuis dimanche soir parce qu'Emmanuel Macron n'hésite pas, pour faire barrage au Rassemblement national, à s'acoquiner avec la France insoumise. Et c'est ça qui excite le peuple. C'est ça qui crée de la colère. Et je comprends effectivement, parce que moi je comprends la colère de tous les Français qui se sont tournés vers le Rassemblement national, qui n'en peuvent plus de cette impuissance publique dont Emmanuel Macron est le premier acteur, qui n'en peuvent plus de ces leçons de morale qu'on leur donne toute la journée. Et je crois qu'il faut faire très attention.
Vous venez de juger artificiel le Front républicain qui s'est mis en place. Il n'empêche que c'est lui qui, pour l'instant, fait baisser les résultats du RN de façon explicite, en tout cas dans les sondages.
Arithmétiquement, mais méfions-nous de la dynamique de la colère. Méfions-nous de ces alliances contre la nature que les Français regardent. Et encore une fois, je pense aux électeurs du Rassemblement national, mais je pense aussi aux électeurs d'Emmanuel Macron qui ne doivent pas comprendre ce qui se passe depuis dimanche soir.
Martin Garagnon, on voit le score de la gauche dans le dernier sondage, 170 à 200 sièges selon l'IFOP, je le précise. Voter pour la France insoumise dimanche, c'est moins dangereux que de voter pour le Front national ?
Nous, on a eu une parole extrêmement claire et on n'a pas attendu le résultat du premier tour pour avoir une parole claire.
C'est juste.
On a, je vous le rappelle quand même, on a refusé de présenter des candidats dans une soixantaine de circonscriptions, estimant qu'il y avait un risque majeur de l'élection d'un représentant du RN. Donc nos responsabilités, on les a prises. Quand j'entends M. Didier nous expliquer...
Faut-il voter ou pas LFI ? C'est pas clair pour tous les électeurs, et notamment pour les vôtres.
Le soir du premier tour, Gabriel Attal, une déclaration très solennelle et très claire sur le perron de Matignon, expliquant que notre ligne rouge, c'était, lorsqu'un candidat du RN était arrivé en première place au premier tour, c'était de se désister en faveur d'un candidat républicain et démocrate. De facto, ça en exclut certains, y compris du côté de la France insoumise. Jamais vous n'avez entendu quelqu'un
David
de...
David Guiraud ?
Quelqu'un, par exemple, c'est une personne qui, pour moi et pour beaucoup de responsables politiques de la majorité, ne s'inscrit pas dans ce qu'on appelle...
Et qui est pourtant soutenu par le candidat qui n'a pas été retenu au second tour.
Le désistement n'équivaut pas à un soutien et encore moins à une coalition.
Non, mais ça contribue à faire élire, éventuellement. Donc...
On va se dire les choses très franchement.
Merci.
Nous, dans le premier tour, le constat qu'on a fait et qu'on a exposé autant que possible, c'était de dire le programme du Nouveau Front Populaire représentait à nos yeux un danger pour le pays. Et le programme du RN était également un écueil. Il se trouve que les Français ont fait un choix le soir du premier tour, expliquant que finalement, ils ne souhaitaient pas donner une majorité au Front Populaire. Donc cette option-là a été écartée. Le risque de voir Mélenchon arriver à Matignon, puisque finalement, tout le monde avait compris que c'était ça qui était l'option numéro un. En tout cas, vos camarades de la France Insoumise se répandaient dans les médias pour nous expliquer que de toute façon, ce serait Mélenchon ou au pire un insoumis. Ce risque-là a été écarté par les Français au premier tour. Reste un deuxième écueil qu'on a signifié.
Mais vous croyez qu'il est vraiment écarté? Quelle est écartée cette possibilité de voir la gauche ne peut plus gagner?
Mathématiquement, et c'est d'ailleurs, je pense, sans donner de leçon à M. Ballard, mais je pense que c'est l'écueil de la campagne du second tour du RN qui a eu besoin de l'épouvantail Mélenchon pour faire sa campagne. C'est qu'au deuxième tour, ils ont continué à vouloir avoir cette figure de repoussoir de Mélenchon, alors que les Français ont bien compris que cette option était levée. Mais ça, c'est la responsabilité de la stratégie du RN, libre à eux d'adopter la stratégie qu'ils souhaitent. En revanche, nous, on a toujours été extrêmement clairs là-dessus, mais je revenais au propos de M. Didier. Quand j'entends M. Geoffroy Didier nous expliquer que les RN, je trouve que vous restez dans une posture intellectuelle assez confortable, celle de ne pas prendre parti. Mais je serais très curieux de savoir quelle sera l'attitude de vos députés au soir du second tour, si le RN approche des 260-270 députés. Parce qu'on le sait, ça a été dit par M. Bardella, que des tractations, des échanges ont déjà lieu à l'heure actuelle avec
le RN. C'est une bonne question. Posons-la, Geoffroy Didier.
Je vais vous répondre.
Merci, M. Calvi.
Alors là, vous faites de la politique fiction, puisque
non, ce sont des déclarations de M. Bardella. Il a dit qu'il y avait des échanges en cours avec le RN.
Vous faites de la politique fiction. Moi, je vais faire de la télé-réalité, si je peux me permettre. C'est-à-dire la réalité.
On baisse.
La réalité, c'est que, je vous pose la question, pour que vous nous le confirmiez devant les Français qui nous regardent. Est-ce que, oui ou non, le candidat qui n'a pas pu se qualifier au second tour d'En Marche soutient le député aux propos notoirement antisémites, David?
Absolument pas.
C'est une fake news que vous faites.
Mais
parce que Monsieur Calvi, vous avez, j'imagine,
des personnes. Ensuite, vous répondrez à la question qui vous a été posée, parce que c'est habile de leur poser une autre derrière, mais ça nous intéresse d'avoir votre réponse.
Qui vérifie l'information sur Internet. Donc on aura même la réponse en
direct. La position du candidat investi par notre parti, par la majorité,
Il est libre parce qu'il y a des choses qui ne sont pas insignifiantes.
Vous avez raison, mais on ne va pas se perdre dans les circonscriptions, si vous le voulez. Une fois qu'on aura passé un petit coup de serpillière sur celle-là,
j'aimerais soutenir un candidat antisémite, c'est
vous ne répondez pas à ma question, monsieur.
C'est comme lorsqu'il y a un crime et considère que c'est un fait divers alors que c'est un fait de société.
Vous ne répondez pas pour autant à ma question.
Oui. C'est grave. Et moi, je vais vous dire une chose.
Passez la leçon de morale, est-ce qu'on peut avoir votre réponse?
Quel est le nombre de députés, les Républicains, qui ont soutenu Éric Ciotti lorsqu'il s'est soumis au Rassemblement national?
Et quel est le nombre qui sont prêts à le soutenir dans un deuxième temps? C'est la question qu'on vous pose, en fait. Il faut un message de clarté pour les Français.
Combien de députés sur les 62 députés LR ont soutenu Éric Ciotti dans sa démarche personnelle?
Un ou deux.
Bravo, il y en a un qui suit. C'est une personne, sa voisine de palier des Alpes-Maritimes. Vous voyez,
admettez qu'une seule personne
ne pas prendre une position claire. À l'unanimité,
c'est sympathique.
Non, mais c'est sa voisine de palier au sens politique et géopolitique.
Moi, je suis pour l'amitié entre voisins.
Vous étiez bien le soutien de M. Ciotti il y a deux ans, on est bien d'accord.
Mais jamais il avait dit qu'il souhaitait se retrouver avec le Rassemblement national.
Dites-le clairement vous aussi.
Mais soyez rigoureux avec les faits. Est-ce que M. Ciotti, il y a deux ans, lorsqu'il a été élu président des Républicains, avait promis une alliance avec le Rassemblement national?
Non.
Et d'ailleurs, M. Calvi, il n'y a pas eu d'alliance avec le Rassemblement national.
Vous nous confirmez qu'il n'y en aura pas.
Il y a eu la soumission d'un homme qui a voulu sauver sa circonscription, alors que nous sommes des hommes et des femmes libres.
Et à ma question,
c'est-à-dire
qu'était...
que nous serons à l'Assemblée nationale, et moi j'aimerais qu'il y ait une gauche républicaine qui ressurgisse. Et je veux qu'il y ait une droite républicaine qui s'impose et qui soit le pivot et l'arbitre à l'Assemblée nationale. Vous voyez, en politique, on ne se soumet pas, on crée le rapport de force. Et je déplore effectivement que le parti d'Emmanuel Macron se soit soumis à la France insoumise.
Philippe Ballard, on aimerait une réponse claire. Je ne comprends pas quel sera votre rôle dans ce bourbier décrit par Marine Le Pen si vous n'optez qu'une majorité relative. Comment va se positionner le Rassemblement national?
Ah bon, alors
qui peut par ailleurs continuer d'être le premier parti, qui peut dans les projections être le premier parti de l'Assemblée nationale.
Je réponds à votre question,
mais c'est un événement historique.
Oui, Déjà, le premier tour, c'est historique.
Oui.
Bon, déjà, c'est très instructif, en fait, les échanges auxquels on assiste, parce que quand Marine Le Pen parle de Bourbier, là, alors on ne va pas rentrer circonscription par circonscription, mais il y a des noms qui parlent. Quand on parle de M. Guiraud, qui considère qu'une jeune fille voilée, ce n'est pas un problème. Une petite fille voilée, ce n'est pas un problème. Mais quand vous avez un macroniste qui se retire mécaniquement, avec ce front républicain qui ne marche plus. Hein. Nous, on n'est pas inquiets. Mais enfin, bon, ça envoie un signal quand même. Et puis, à contrario, quand Mme Borne est soutenue quand même par le candidat La France Insoumise, on a l'impression que la réforme des retraites, il ne s'est rien passé. Vous étiez observateur, vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée au moment de la réforme des retraites.
Entre deux mâles, on choisit le moins pire.
C'était hallucinant. Enfin, il y avait des députés LFI qui avaient fait un ballon de football. Ils avaient dessiné la tête de M. Dussopt, qui était ministre du Travail à l'époque. Donc voilà, et maintenant on appelle à soutenir Mme Borne, on appelle à soutenir M. Darmanin. Enfin, les gens n'y comprennent rien. Enfin, ce qu'ils ont très bien compris, c'est qu'il y avait un syndicat pour sauver son petit siège de député qui était mis en place et que tout ça, ça allait nous mettre dans ce bourbier. Donc il y a une solution alternative, c'est dimanche de voter pour les candidats Rassemblement National. Et je vais répondre à votre question.
Est-ce que vous restez des opposants, même avec 220 ou 230 députés ?
Et on fera. Moi, je me rappelle la première réunion qu'on a eue en 2022 après notre élection autour de Marine Le Pen. Elle a dit, lors de vos votes, vous n'aurez qu'une seule boussole, c'est de voter pour l'intérêt de la France et des Français. Donc on restera dans ce cadre, on travaillera à l'Assemblée nationale plus exactement dans l'intérêt de la France et des Français.
Vous resterez des opposants, même en étant majoritaire, relativement.
Est-ce qu'il y aura des opposants ? Opposant à qui ?
au futur gouvernement et à la coalition, opposant qui, quoi qu'il arrive, aura lieu. Anna Cabana, Anna Cabana voulait intervenir.
Non, sur la coalition, c'est clair que ce qui est amusant, c'est de voir comment, au sein de ce qui est encore la majorité présidentielle, on se tortille avec ce mot de coalition. C'est-à-dire qu'il est lancé par certains, puis ensuite, tout de suite, le Premier ministre dit non, j'ai pas dit coalition. Et en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on a autour d'Emmanuel Macron, Julien de Normandie, qui est en train d'essayer de rassembler, n'est-ce pas, des êtres humains responsables, prêts à travailler ensemble, qui iraient donc des LR aux communistes, en excluant donc la France insoumise. Et François Hollande ferait partie de ceux qui discuteraient. Il y a vraiment des discussions pour essayer de mettre sur pied une majorité de compromis. Une majorité de projets, hein, ce sont les expressions employées. Et ça, c'est vrai que de le dire avant le deuxième tour, eh bien, ça peut remobiliser des électeurs du Rassemblement national ou au moins des électeurs qui voudraient s'opposer à ce front républicain. Parce qu'on est déjà dans ces tractations-là. Emmanuel Macron n'a pas du tout renoncé à cette idée.
Objectivement, David Jaïz, ce ne sera peut-être pas le bourbier, pour reprendre le terme de Mme Le Pen, mais un grand saut dans l'inconnu pour la France, quoi qu'il arrive. Est-ce que notre pays est prêt à basculer dans une autre forme, finalement, de république, avec un pouvoir qui se déplace de Matignon vers le Parlement ?
De toute façon,
c'est un contresens total de notre Constitution.
Les institutions de la Ve République, avant qu'elles soient trahies et travesties après 2002 et le quinquennat, c'est des institutions magnifiques parce qu'il y a un très bel équilibre entre le pouvoir présidentiel et le gouvernement qui procède du Parlement.
Oui.
Et on l'a vu au moment des cohabitations, Yves Calvi, à chaque fois qu'il y a une cohabitation entre un président et un Premier ministre, le pouvoir se déplace vers Matignon parce que le Premier ministre tire sa légitimité d'une majorité parlementaire.
Oui.
Ce que je trouve dingue dans les mœurs politiques de ce pays, c'est qu'il y a cette idée qu'un parti égale une majorité. Et tout le monde le doit sur la couture du falzar ou dans l'opposition. Dans les autres pays européens, depuis que le Royaume-Uni est sorti de l'Europe, de l'Union européenne, c'est pas comme ça que ça marche. Dans les autres pays européens, les partis se présentent au suffrage, chacun concourt avec honnêteté et transparence avec son ADN politique. Je suis libéral, je suis socialiste, je suis gaulliste. Et une fois qu'on a procédé à l'élection, on a un rapport de force au Parlement, et les partis se mettent à discuter entre eux et à essayer. Et ce n'est pas de la tambouille, parce que quand ils concourent, ils disent aux électeurs clairement, voici quel est notre programme.
Et on écrit ce qu'on va faire.
On écrit ce qu'on va faire et on écrit aussi les lignes rouges.
Sauf que parfois, ça met 6 mois, 8 mois, 9 mois de blabla pour qu'on se mette d'accord sur un programme.
Ça dépend des pays, mais en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, on peut aller assez vite et on a des gouvernements qui fonctionnent, qui ne sont pas embolisés. Et au fond, la modernité politique, c'est ça. Aucun parti aujourd'hui ne peut prétendre représenter 51% des Français. Même le Rassemblement national, qui aujourd'hui, c'est un fait, et le premier parti de France, il fait 33%, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup trop pour moi. Mais il fait 33, il ne fait pas 51. Le système dont on parle là, qui est en train d'agoniser, ça fonctionnait bien quand on avait deux grands partis, un parti socialiste et une droite RPR, qui représentaient chacun 40 à 45% de l'électorat et qui alternaient au pouvoir. Dans un monde de pluralisme, il faut faire vivre le pluralisme. Je rappelle que Marine Le Pen a longtemps fait de la proportionnelle une de ses priorités. Le nouveau Front populaire a inscrit le principe de la proportionnelle dans son programme. Et Emmanuel Macron avait mis la proportionnelle dans son programme de présidentiel en 2017.
Vous avez raison.
Eh bien voilà un premier sujet d'accord qui pourrait recueillir 100% des voix dans la nouvelle Assemblée du mois de juillet.
Nicolas Mayer-Rossignol, quand on voit l'atmosphère qui règne depuis deux ans au sein de l'Assemblée nationale, on n'ose pas imaginer ce que ça va donner si le pouvoir se déplace là-bas. Enfin, excusez-moi, mais...
Ah, moi, j'ai déjà dit.
Si le terme pouvoir a encore un sens...
J'avais employé cette formule, ça peut être le chaudron de l'enfer, hein, absolument, ça peut être absolument terrible. Mais si on veut essayer de sortir de la fiction, moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je rejoins ce qu'a dit Geoffroy Didier sur un point, c'est que je pense qu'on a besoin de retrouver...
On a le droit d'être intelligent.
Non, mais vous voyez, j'essaye de construire, mais je pense que, pour le coup, je ne suis pas sûr que vous serez à l'Assemblée, mais vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on a... Absolument, vous avez raison.
La coalition est en marche,
Calvi. Il fallait le laisser aller au bout, j'attendais. Je voulais m'y coller après. Anna est gourmande, donc hop, elle l'a sortie tout de suite. Alors, on vous écoute.
Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je suis comme vous partisan de retrouver une droite républicaine et une gauche républicaine. Le problème, c'est que là, nous sommes dans un moment, parce que je souscris à ce que vient de dire David Jayce, mais nous sommes dans un moment d'urgence. Le résultat, c'est dimanche. Les attentes des Français sont immédiates. Le pouvoir d'achat, par exemple.
Oui.
Beaucoup d'autres sujets. Il va donc falloir agir. Bon. Quels sont les scénarios les plus probables, si on veut bien sortir des lunes ou des fantasmes? Un, je maintiens une majorité absolue. On peut critiquer effectivement le mode de scrutin. Il est là.
Oui, oui.
Une majorité absolue de l'extrême droite. Deux, une majorité, ou presque, ça a été dit, de l'extrême droite, qui pourrait alors vouloir chercher des alliés. Monsieur Didier, vous n'avez pas voulu vraiment répondre à cette question, c'est votre droit. Mais peut-être que je peux la poser à ce moment-là à Monsieur Ballard. Si Mme Le Pen fait presque la majorité, vous tournerez-vous vers les Républicains? Moi, je crois que oui.
Bah, sur le régalien,
mais évidemment, elle l'a dit, Marine Le Pen, non?
Sur le,
ou prou.
Jordan Bardella et Marine Le Pen l'ont dit. Et pas que, d'ailleurs, LR. Mais sur le régalien, je pense qu'avec LR, alors là, hors tendance, le président, qui est toujours président des LR, M. Ciotti, mais il peut y avoir des points de convergence, et on en avait à l'Assemblée nationale déjà, sur le régalien, par exemple.
Bien sûr,
mais
voilà,
donc la seule question, c'est
est-ce
qu'on va trouver le nombre de députés
donc, tous
qui,
les
à droite,
autres...
pourraient
devenir
des compagnons de route du RN?
Je vous dis ça parce qu'on nous interroge beaucoup à gauche sur la coalition, la CARP, le lapin, etc. Mais ce qu'on voit très bien, c'est que les scénarios les plus probables, ce n'est pas l'histoire de la coalition à gauche. C'est l'histoire de quoi? De l'extrême droite majoritaire seule ou de l'extrême droite avec la droite?
Vous défendez étrangement vos candidats à l'élection.
Non, je dis juste que nous nous
depuis le début de l'émission, vous nous expliquez non, écoutez, non, c'est très peu probable qu'on arrive à former un groupe qui tienne le bout.
J'essaye d'être honnête. Regardez les chiffres. Quels sont les scénarios les plus probables? C'est soit la majorité par l'extrême droite seule, et ce serait terrifiant, soit une forme de complaisance qu'on voit très bien sur ce plateau, de pas de deux chorégraphiés, l'un disant à l'autre, effectivement, venez travailler, et l'autre disant, mais c'est vrai que finalement, nous sommes assez d'accord ensemble.
Vous êtes incroyable.
J'ai pas vu que vous faisiez des pointes tous les deux.
Vous êtes incroyable.
Le régalien, par exemple.
Vous faites les questions et les réponses.
Je vous donne mon point de vue.
Vous faites une coalition entre Emmanuel Macron et la France insoumise totalement contre nature.
Non, il n'y a pas de coalition,
mais
vous l'avez noté.
Pour tenter de masquer cette combinaison qui va devenir une coalition, parce qu'il va bien falloir un moment qu'Emmanuel Macron paye l'addition à la France insoumise. Et j'aimerais savoir quels sont les termes du pacte secret. Mais on fait des procès d'intention
à tous ceux qui ont décidé,
comme moi, de rester clair. Parce que moi, je reste clair. Je vais vous dire une chose, M. Calvi. Je ne veux pas gouverner avec François Hollande. Voilà, que les choses soient dites.
Et avec Mme
Je ne veux pas gouverner avec Sandrine Rousseau. Donc ce gouvernement dit de coalition...
Et avec Mme Le Pen.
Et avec Marine Le Pen.
Mais non plus. Moi, je veux une droite indépendante, libre, qui soit le pivot et qui empêche M. Calvi, les autres, de faire n'importe quoi.
Donc on est dans un milieu politique. Et vous attendez votre
tour. On est dans un milieu politique qui n'a plus de repères, où chacun trahit ses propres convictions, où d'un dimanche à l'autre, on s'assoit totalement sur ses convictions et ses valeurs. Et je crois précisément qu'il faut envoyer à l'Assemblée nationale des hommes de la droite républicaine et de la gauche républicaine qui sont fidèles à leurs convictions droit dans leurs idées et qui ne tournent pas leur veste. Voilà ce que les Français attendent.
Martin Garagnon, vous voulez intervenir ?
Oui, non, mais simplement, je veux bien entendre votre discours, mais enfin, une fois de plus, vous refusez de répondre aux questions. Moi, ce que je constate, c'est que les LR, finalement, postulent à la même posture qu'ils ont adoptée pendant 2 ans. C'est-à-dire que vous étiez dans l'opposition au gouvernement d'Emmanuel Macron, mais vous n'avez déposé aucune motion de censure. Et alors, vous savez très très bien que vous étiez le pivot d'une motion de censure. Il suffisait que votre groupe à l'Assemblée en dépose une pour que le gouvernement tombe. Donc, vous restez dans cette espèce de posture très confortable qui consiste à dire « je ne suis pas avec les uns, je ne suis pas avec les autres ». Mais les Français, enfin, vous appelez de la clarté, mais soyez clair vous-même, vous ne l'avez pas été pendant les 2 années de législature, vous n'êtes pas plus ce soir. Donc mais moi je veux bien vous poser en pivot de la prochaine Assemblée.
Mais je l'ai dit publiquement, enfin, nous avons par exemple lutté pour avoir un projet de loi immigration que nous avons adopté, mais quel est dans le
oui,
sens
ils sont,
de la droite.
Il ne vous a pas échappé qu'ils sont dans l'opposition quand même.
Donc, oui, mais
s'ils vous ont accompagné notamment dans la réforme des retraites, ça c'est...
Mais moi, vous savez, monsieur le représentant d'Emmanuel Macron, c'est vous qui êtes LR.
Pardon, je vous redonne la parole.
Mais c'est un débat que j'ai eu avec beaucoup de députés LR en leur expliquant, enfin c'est eux qui d'ailleurs m'expliquaient que s'ils sont dans l'opposition, qu'ils aillent au bout de leur démarche. Et aller au bout de la démarche quand vous êtes dans l'opposition, c'est déposer une motion de censure. Le RN, la NUPES en ont déposé un nombre assez incroyable, qui toutes ont échoué, parce que certaines, vous les avez votées ensemble d'ailleurs, entre la NUPES et le RN, ce qui est votre droit en tant qu'opposition. Mais on est dans un moment quand même qui appelle une certaine clarification. Vous parliez tout à l'heure de la proportionnelle et des projets effectivement de réforme du scrutin, parce qu'on entend beaucoup ces derniers jours parler de tambouille électoraliste, etc. Oui. Bah une fois de plus, là je reprends les propos des uns et des autres, il n'y a pas de tambouille électoraliste.
Ah bon.
Il y a au final, je vous entendais madame, effectivement, à juste titre dire il y a des...
J'ai pas dit tambouille.
Mais des accords d'appareils, mais au final... Oui, mais ce ne sont pas les appareils qui vont voter dimanche soir, ce sont les Français. Donc,
c'est normal qu'il y ait des tractations.
Mais en fait, entre nous, il n'y a pas de tractations.
Démocratique.
Nous, on est d'accord sur un point sur lequel se retrouvent visiblement les 2/3 des Français, c'est de ne pas vouloir du RN au pouvoir, pour des raisons diverses et variées, mais sur lesquelles on a pu débattre. Donc c'est le seul point d'accord. Donc ça ne fait pas une coalition. Un barrage n'a jamais fait une coalition. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est, pour des raisons, notamment, moi j'ai mes raisons, mais chaque Français peut avoir les siennes, estimant que c'est un danger pour notre pays, pour l'avenir économique de notre pays notamment. Donc ça ne fait pas un accord électoral, ça ne fait encore moins une coalition. Ouais. Donc je veux bien, monsieur Didier, que vous achetiez ce chiffon
mais
rouge de la coalition
et de dire
de manière très abusive que Emmanuel Macron se soumet à la France insoumise. Enfin, dire
j'ai entendu Gabriel Attal, Premier ministre, sur France Inter, on peut le repasser si vous le voulez. Disons,
Emmanuel Macron se soumet à la France Insoumise.
On ne fera jamais d'accord. La France Insoumise ne peut pas gagner, donc vous pouvez voter pour elle.
Non, mais il faut peut-être rappeler.
C'est un comble.
On ne fera jamais d'accord avec la France Insoumise. Je vous le redis ce soir.
Donc ne votez pas
pour elle. Les yeux sur ce plateau.
Ne vous désistez pas.
Jamais on ne fera un accord avec la France Insoumise.
Soyez clair.
Jamais on ne fera un accord.
Non, mais on peut repasser aussi Emmanuel Macron le 12 juin. Qui dit l'inverse de ce qu'il a dit quelques jours après sur ce barrage anti-RN et cette coalition qu'il appelait de ses voeux. Enfin, le 12 juin, LFI, c'était la pire des choses. Et puis quelques jours après, bah oui, avec le nouveau Front Populaire,
Le festival de revirement,
ce qui est fabuleux, c'est qu'on ne parle plus de l'intérêt de la France et des Français. Pouvoir d'achat, sécurité, immigration, dette, impôts, taxes, ça a disparu du débat.
Si vous le voulez bien, il y en a en tout cas qui ne veut pas entendre parler d'une grande coalition, c'est François Ruffin, le député sortant de la Somme, qui s'en est une nouvelle fois pris à Jean-Luc Mélenchon de bonne humeur ce matin. Écoutez-le.
On a vécu 3 semaines dures parce qu'on a un boulet. Vous regardez, vous l'avez entendu, quoi. C'est Mélenchon, 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 Mélenchon comme obstacle au vote. Là, vous avez dans des terres comme ici, dans des terres populaires de province, ça bloque, quoi.
Bonsoir Anthony Lebeau, c'est une voie solitaire que semble vouloir prendre le député sortant de la Somme que vous avez suivi aujourd'hui. LFI est définitivement derrière lui.
Oui, solitaire, c'est le mot qui le caractérise. François Ruffin a longtemps été l'électron libre de la France insoumise, trop peut-être pour être un insoumis fidèle, puisque c'est vrai, le divorce a été acté ce matin sur RTL. À l'évidence, oui, je suis parti de LFI, voilà ce qu'a dit François Ruffin ce matin. Alors, il y a eu déjà, Yves, des épisodes qui ont marqué cette distance prise par François Ruffin avec la France insoumise. L'affaire Quatennens, les condamnations des attaques du 7 octobre en Israël, ou encore plus récemment, la décision de la direction de la France insoumise insiste de ne pas réinvestir des députés qui furent proches, très proches de Jean-Luc Mélenchon, au motif qu'ils avaient émis des critiques sur la démocratie interne du mouvement. Et puis François Ruffin, aujourd'hui, et puis ces jours précédents, a aussi émis des divergences très profondes avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. D'abord sur la manière de communiquer, plutôt la force tranquille que le bruit et la fureur, dit-il. Et puis sur la stratégie, sur ce que doit être la gauche, selon lui. Écoutez François Ruffin, c'était il y a à peine une heure et demie aux côtés de salariés de la déchetterie d'Abbeville qui dénoncent des pertes de salaire.
J'ai des désaccords qui sont connus, qui sont importants, qui sont profonds avec Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il y avait un divorce qui était en cours. Je souhaite que le divorce se passe à l'amiable et que ça ne se passe pas avec du bruit de vaisselle. D'accord ? Mais pour moi, il y a eu un choix d'abandonner les bourgs populaires, d'abandonner les campagnes populaires et de ne pas chercher à unir la France des bourgs et la France des tours, de ne pas chercher à additionner les classes populaires d'ici d'Abbeville et les classes populaires de Seine-Saint-Denis.
Voilà, c'est pour cette raison notamment que François Ruffin dit que Jean-Luc Mélenchon est un boulet, un obstacle sur son territoire dans le cadre de sa campagne législative où il est arrivé au premier tour deuxième derrière le Rassemblement National. Alors Jean-Luc Mélenchon n'a pas répondu aujourd'hui à ce qu'a dit François Ruffin, mais il avait répondu la semaine dernière aux premières attaques du député sortant en disant qu'il ne comprenait pas, je cite, la hargne qu'il avait à son égard. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que les lieutenants de Jean-Luc Mélenchon se méfiaient beaucoup de François Ruffin et jugeaient dernièrement qu'il manœuvrait dans leur dos pour affaiblir la France insoumise et qu'ils jouaient contre leur camp. Le divorce est désormais acté, Yves, et François Ruffin a aussi dit ce matin qu'il ne siégera plus avec le groupe La France insoumise s'il est réélu député. Il a évoqué notamment un groupe avec des communistes ou encore des écologistes.
Anthony Lebeaus avec Lucie Maman sur le terrain. Nicolas Maillard-Rossignol, je vous donne tout de suite la parole après. Enfin, est-ce que vous partagez l'analyse qu'on vient d'entendre, en l'occurrence, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est devenu un boulet pour la gauche aujourd'hui ?
Mais on sait très bien que c'est un plafond de verre pour la gauche depuis longtemps.
Moi, je ne pourrais bien le dire. Un plafond de verre, je vous demande boulet, moi.
Oui, je prends mon expression, chacun a la sienne.
D'accord.
Bon, il est très clair, et je l'ai dit depuis longtemps, comme socialiste pour le coup républicain, que ce n'était pas la bonne voie pour la gauche. Mais sortons des fantasmes. LFI est minoritaire au sein du Front populaire. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Quels sont les seuls scénarios possibles ? C'est l'extrême droite ou l'extrême droite avec les LR ? Cette histoire de fantasmes sur LFI, c'est simplement un chiffon rouge qu'on agite pour faire peur. Mais la réalité n'est pas celle-là, ni dans le spectre de toute l'Assemblée, ni même au sein du nouveau Front populaire, et c'est facilement vérifiable.
Anna Cabana.
Oui, tout à l'heure, on se posait la question de savoir si François Ruffin était solitaire. Il faut faire attention, parce que François Ruffin est en train de prendre date. François Ruffin, s'il arrive à gagner cette élection législative, ce qui n'est pas...
C'est vraiment pas acquis.
Ce qui n'est en effet pas fait, mais s'il arrive à gagner, si vous voulez, en ayant rompu politiquement avec Mélenchon dans cette campagne d'entre deux tours, eh bien il se positionne pour former un groupe de gauche, d'accord, qui exclurait les insoumis infréquentables. C'est ça le positionnement de François Ruffin et il y a là une tactique qui peut avoir du sens pour lui, sachant que lui dit boulet. Nicolas Maillard-Rossignol dit plafond de verre, mais je peux vous dire qu'en off et hors micro, vous avez 90% de ceux qui constituent aujourd'hui le Front républicain, qui à chaque fois qu'ils voient Mélenchon s'approcher d'un micro, eh bien, prennent peur et n'ont qu'une envie, c'est de le faire taire. C'est-à-dire que Mélenchon, à 20h15, le soir du premier tour, en venant s'afficher, si vous voulez, aux côtés de Rima Hassan...
Avec un beau keffier, en effet,
eh bien, en faisant ça... Il a planté des poignards dans le dos de ce front républicain qui n'existait pas encore.
Après moi, le déluge.
C'est-à-dire qu'il leur rend le pire des services. C'est-à-dire que il a tout sauf envie que ce front républicain existe. C'est-à-dire que le pari politique de Jean-Luc Mélenchon, la stratégie politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est la victoire du Rassemblement national. Parce que c'est, d'après lui, et il l'a théorisé, ça fait des années qu'il le théorise. Ça ne s'est pas fait à la faveur de ce scrutin inopiné. Il pense qu'il faut ce chaos-là, d'accord ? Il faut en arriver au RN au pouvoir pour ensuite que l'avènement d'une force de gauche constitué par ses propres troupes puisse arriver au pouvoir en France. C'est ça le pari de Mélenchon.
Vous ne saviez pas que Mélenchon était votre meilleur allié?
Je ne lis pas dans la pensée profonde de Jean-Luc Mélenchon.
Mais vous avez compris que vous étiez votre meilleur allié dans cette configuration quand même. Ça, je crois que vous l'avez compris.
Allié, c'est peut-être pas franchement le mot quand on voit les... Non, mais quand on voit ce que c'est LFI, je ne sais pas si tout à l'heure on parlera de Prisca Thévenot, mais enfin, ce sont visiblement, je vais rester prudent, il y a des témoins sur place, d'ailleurs j'ai regardé ça sur BFM, qui ont vu la scène et qui nous disaient, sur votre antenne, moi je vais le mettre au conditionnel, il y a une enquête d'ouverte, c'était des gens qui distribuaient des tracts LFI une demi-heure avant, qui ont agressé Mme Thévenot. Donc avoir comme allié,
on va en parler mettre dans le quelques mot instants.
Allié à coller Mélenchon, allié Rassemblement National, non c'est pas possible.
Vous voyez bien que, en même temps, c'est lui qui sert, si vous voulez, les intérêts du Rassemblement national dans cet entre-deux-tours. Parce que très clairement, s'il parlait moins, le Front républicain serait encore plus fort.
Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs tout au long de la campagne du premier tour, cette espèce de pas de deux entre le RN et le Front populaire dominé par Mélenchon et ses affidés, c'était de faire croire aux Français, quelque part en voulant leur voler l'élection, qu'il n'y avait que deux options sur la table, qu'il y avait l'option de l'extrême gauche ou l'option du RN. Et les deux se renforçaient mutuellement, mais Mélenchon est un épouvantail devant un miroir dans son dialogue implicite avec le RN. Et nous, on l'a dénoncé là-dessus. Et c'est là où je rejoins M. Dié, c'est qu'il y avait d'autres options. On n'est pas d'accord sur les mêmes options.
Oui, mais à qui la faute?
Il y avait d'autres incarnations.
À qui la faute?
Jean-François Didier.
Et nous, on le combat.
À qui la faute?
Nous, on se désiste pas pour lui. Mais c'est une différence quand même.
Depuis 5 ans,
nous, on se combat. Mon voisin de gauche se désiste pour
LFI. Ma dernière question est pour vous. Si une coalition du centre-gauche prend le pouvoir, ce serait un vrai paradoxe dans un pays qui penche à droite depuis des années. Mais ce sera aussi votre échec, à vous, la droite. Classique, si je puis dire.
C'est d'abord l'échec d'Emmanuel Macron.
Républicaine, celle qu'on qualifie de républicaine.
C'est d'abord l'échec d'Emmanuel Macron. C'est lui qui nous mène dans le mur depuis 7 ans. C'est lui qui a augmenté la dette de 1 000 milliards d'euros depuis 7 ans. C'est lui qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'il est responsable de la sécurité des Français, il y a 1 000 agressions par jour.
Pourquoi vous n'avez pas déposé une motion?
C'est lui qui fait qu'aujourd'hui, il y a 9 clandestins sur 10 qui ne sont malheureusement pas reconduits dans leur pays. Mais moi, je viens d'apprendre par SMS que l'une de mes militantes, à Neuilly-sur-Seine, vient d'être aussi agressée pendant qu'elle tractait des documents. Et je parle évidemment sous toute réserve et avec la prudence qui est la mienne, mais il semble aussi que ce soit quelqu'un d'extrême gauche et est actuellement au commissariat de Neuilly-sur-Seine. Vous voyez, il y a un climat de violence politique, mais il y a aussi malheureusement une tactique électorale qui consiste à faire monter les extrêmes de la part d'Emmanuel Macron depuis 7 ans.
Vous reprenez les propos de Marine Le Pen, l'extrême gauche est à vos yeux responsable de la du climat de violence qu'on connaît dans notre pays?
Bien sûr, mais je crois aussi qu'il y a une responsabilité politique d'Emmanuel Macron, qui a mis en scène les extrêmes et qui est aujourd'hui co-responsable de cette confrontation et de cette fracturation du pays.
Merci à tous.